J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'un intellectuel français qui n'aime rien tant que les autres cultures, ce voyage jusqu'au cœur de l'altérité. Pas le genre d'homme à trouver un voyage très dépaysant. Dépaysant, il a ce mot en horreur. Lui d'habitude si doux, si cordial, il deviendrait presque agressif, presque méprisant. Dépaysant, et pourquoi pas divertissant pendant qu'on y est. Et pourquoi pas pendant qu'on y est dire qu'on a fait le Sri Lanka ou qu'on a fait l'Islande, comme on fait son boulot, comme on fait la vaisselle. Lui, il n'a pas fait la Chine ou fait le Far West, comme on cocherait des cases dans un tableur Excel. Non, pour lui, le voyage, c'est autre chose que cela. La Chine, Pékin, l'Amérique, le Far West, le Dakota. Ce n'est pas pour oublier un peu son taf et en ramener des photos instagrammables. Non, c'est une expérience de l'altérité. Une question qu'il se pose et repose sans cesse, inlassablement. Au fond, que puis-je vraiment comprendre de l'autre ? Lui, l'enfant de la banlieue parisienne, devenu normalien de la rue d'Ulm, il regarde longuement ce cow-boy américain guidant un troupeau de centaines de vaches au milieu de la plaine infinie. Il le regarde et il se dit « Que puis-je comprendre de sa vie ? Que puis-je ressentir de sa vie ? Puis-je ne serait-ce qu'entrevoir le rapport au temps qui est le sien ? Je me doute qu'il aime les grands espaces, qu'il se sent chez lui dans le monde sûrement un peu plus que moi. Mais quand même, comment s'étire le temps pour lui ? Cette journée entière sur son cheval, ses montagnes à perte de vue, ses petits claquements de langue pour guider les vaches et ce troupeau immense qui lui répond comme un seul homme. Est-ce qu'il est envahi par un sentiment de plénitude, un sentiment d'éternité ? Est-ce qu'il s'ennuie ? Plus il voyage, plus il comprend que ce qu'il aime tant, c'est moins comprendre les autres cultures que se heurter à ce qui résiste. Comprendre qu'il ne comprendra pas, qu'il pourra juste s'approcher avec curiosité, avec respect, avec humilité, s'approcher de ce qu'il ne comprendra pas. Pour en parler ce matin de la différence culturelle et de notre capacité à la comprendre, j'ai la joie de recevoir quelqu'un qui ressemble beaucoup à notre voyageur. Le dessinateur Jules, auteur de Silex and the City, ancien professeur d'histoire chinoise et désormais scénariste de Lucky Luke. Jules qui a même passé plusieurs mois en Amérique sur les traces du cow-boy solitaire et en a tiré un documentaire visible sur Arte. Dans les bottes de Lucky Luke, Jules donc aujourd'hui parmi nous, revenu de tous ses voyages pour nous aider à réfléchir à cette difficile question, peut-on vraiment comprendre la culture de l'autre ?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Jules.
Bonjour.
Ça va bien ?
Mais très bien.
Alors ce cow-boy américain que vous avez, qu'on vous voit dans le documentaire sur Arte, hein, dans les bottes de Lucky Luke, le contempler, lui parler aussi. Est-ce qu'au fond, vous arrivez à vous mettre à sa place et à comprendre quelle est sa vie ?
En fait, le travail d'un dessinateur et d'un humoriste, c'est un peu déjà se mettre perpétuellement à la place de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que l'humour en particulier, plus que n'importe quelle autre forme de création, implique qu'il y a un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rire seul dans le désert d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on offre quelque chose à quelqu'un. Donc on doit anticiper un peu sa possibilité de comprendre. Ouais. C'est-à-dire qu'on connaît cette expression des gens en disant « Ah oui, tu comprends pas, mais moi je me comprends, moi. Ouais. » Ou « Moi je trouve ça drôle. » Et puis les blagues qui tombent à côté, toutes ces choses-là, en fait, ça fonctionne pas. Donc on développe une espèce de sixième sens naturel. Je sais pas si on le développe d'ailleurs ou si c'est quelque chose qu'on a dès l'enfance, mais en tout cas, on essaye de se mettre à la place de l'autre. Alors je sais pas si c'est de l'empathie ou je sais pas si c'est de cette espèce de petit transfert-là, mais ça aide paradoxalement, à comprendre tout ce que les autres ne comprennent pas et tout ce qu'on ne comprend pas des autres en soi. Et cette chose-là, ça marche aussi avec les cow-boys au fin fond du Far West.
On voit que vous essayez quand même, c'était un reportage assez troublant, il y a beaucoup de scènes bizarres, c'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas, moi en tout cas, quand je l'ai vu, je ne m'attendais pas à avoir cette Amérique-là présente, au fond, je pensais que c'était du passé, les saloons, les rodéos, et en fait, visiblement, c'est du présent, et on voit que vous essayez de plonger dedans, et qu'il y a quand même des moments où vous n'en revenez pas.
Oui, parce que le point de départ de ce documentaire, c'était depuis les 11 années depuis lesquelles je travaille sur la série Lucky Luke comme scénariste, d'aller jeter un coup d'œil sur les traces de ce cow-boy dans un Far West possiblement rêvé, possiblement entièrement fantasmé dans l'imaginaire franco-belge à Charleroi et à Paris de Maurice et Goscinny. Hein. Et donc, parce que nous, notre grille de lecture depuis l'enfance, on est des millions comme ça, c'est les Indiens dans les tipis, c'est les rodéos de cow-boys qu'on trouve dans Lucky Luke, les duels au milieu de la rue centrale. Et donc, je m'imaginais sincèrement que c'était un peu des cow-boys de pacotille, une espèce d'imaginaire percolé, distillé par Hollywood lui-même, qui est déjà une grille de lecture en soi. Mais en fin de compte, effectivement, je suis tombé de mon cheval en constatant que rien que non seulement c'était entièrement fidèle à la réalité, mais quasiment rien n'avait changé depuis cette époque de la fin du 19e siècle, mis à part peut-être les téléphones portables et les bagnoles. La vie du matin au soir et du berceau à la tombe des gens qui peuplent ces régions, du Heartland, eh ben en fait, c'est la même que celle de
rien n'a changé.
She's been across the globe and fought for those rights. The rights that we can be right here tonight and enjoy our sport of rodeo.
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched warm so gallantly streaming.
Rodeo. C'est le titre de l'un des tout premiers albums de Lucky Luke. Spectaculaire exutoire à l'énergie de la jeunesse rurale, comme en leur temps les tournois de chevalerie de notre vieille Europe, cette rare occasion de se retrouver après des mois de solitude à conduire des troupeaux demeure, aujourd'hui comme hier, le point culminant de la vie du Far West.
J'ai commencé à affronter les taureaux à l'âge de 14 ans environ. C'est une vraie passion qu'on a. On aime ça et on transmet ça à nos enfants de génération en génération, car c'est un style de vie qu'on n'abandonnerait pour rien au monde.
Alors Jules, ça c'est un extrait de votre documentaire, donc dans les bottes de Lucky Luke sur Arte, qu'on peut encore voir maintenant. Quand vous avez regardé ça, vous vous êtes dit quoi ?
C'était touchant, parce qu'il y avait évidemment une forme de beauté. Et puis j'ai découvert que ce qu'on imaginait depuis l'Europe comme un trou perdu, de gens légèrement attardés, justement arrêtés quasiment sur une touche pause depuis cette époque un peu mythique du Far West, qui pensent que la Terre est plate, que les dinosaures n'ont jamais existé, qui votent Donald Trump, évidemment, et qui finalement, ce cœur-là, blanc, grand, d'origine allemande, scandinave, qui fait ce cœur de l'Amérique comme ça, et qu'on oublie un petit peu, évidemment, quand on voyage à l'est ou à l'ouest sur les côtes, eh ben, ce monde-là, évidemment, il a une profondeur. C'est pas juste des idiots qu'on n'arriverait pas à comprendre depuis une Europe qui serait sophistiquée. C'est-à-dire, on arrête de toiser, finalement, ce peuple-là pour comprendre sa logique intrinsèque. Et c'est un petit peu étrange, effectivement. Mais ça a beaucoup de choses à nous apporter. Et parmi les préjugés que j'avais, évidemment, c'était des gens qui n'avaient jamais vu plus loin que le bout de leur pré. Et en fin de compte, les gens, que ce soit les Blancs dans les ranchs au Far West, ou que ce soit les Indiens, parmi les tribus Sioux, Lakota, parmi les Navajos que j'ai pu rencontrer, les Apaches, en fait, la plupart de ces gens avaient beaucoup plus vu le monde que n'importe quel autre Américain des grandes conurbations.
Pourquoi ?
Ils ont voyagé partout, il n'y a pas une famille où des gens n'ont pas fait le tour de la Terre, parce que c'est là où sont recrutés tous les soldats, en fait, aussi bien chez les Apaches, chez les Navajos, que chez les Blancs des ranchs. Ils sont allés en Irak, ils sont allés en Afghanistan, ils sont allés en Libye, ils sont allés en Europe, ils ont fait le tour du monde comme soldats, ils ont des objets, des gadgets, des choses qu'ils ont ramenées de partout, ils ont vu des cultures différentes, évidemment harnachées de leurs uniformes, etc. Mais finalement, ils en savent beaucoup plus que probablement l'habitant moyen du New Jersey.
Mais vous avez une vision un peu biaisée quand on est soldat ?
Bah évidemment, de toute façon, on est toujours... Mais je pense que les gens qui sont backpackers, qui vont d'une auberge de jeunesse à une autre, du Sri Lanka au Chili, sont aussi certainement très biaisés.
Alors, une des grandes découvertes de votre dernier album, Lucky Luke, un cowboy sous pression, en tout cas, je suis peut-être très inculte, mais j'avoue que je ne le savais pas, à ce point, c'est à quel point cette Amérique-là, l'Amérique qu'on imagine de la façon la plus caricaturalement américaine, à quel point elle est allemande. On découvre sous votre plume que les hamburgers viennent d'Allemagne, que les hot dogs aussi, que le ketchup aussi, que la bière aussi, et même le légalisme.
Oui, c'était assez marrant, en fait, de faire ce choc de culture dans Un Cowboy sous pression, de confronter Lucky Luke à cette communauté des Allemands, qui plus est des Allemands ouvriers, urbains, syndicalistes de la grande ville de Milwaukee, hein, parce que le point de départ de l'album, c'est qu'il y a une grève de la bière dans le Far West, et lui, il doit résoudre ce problème, ce conflit social, il doit aller réconcilier, finalement, régler la lutte des classes, réconcilier patrons et ouvriers, et il tombe dans ce monde allemand, où on parle à 70% allemand, tout est écrit en gothique, il y a cette histoire incroyable, qui est que l'allemand a failli être la langue officielle des États-Unis. À deux voix près au Congrès, ça a été discuté. Donc imaginez ce qui se serait passé au XXe siècle si le continent avait été germanophone. Les cartes auraient été battues différemment. Et cette Amérique-là, elle est extrêmement profonde, elle s'est un petit peu enfouie, cachée, parce qu'il y a eu les guerres mondiales, donc les gens ont changé leur nom, ils ont un petit peu étouffé leurs coutumes, mais en fin de compte, ça informe énormément le pouvoir aujourd'hui et le centre de gravité des États-Unis, en fait, qui n'est pas si, d'un seul tenant comme on pourrait l'imaginer.
Mais alors, il y a un point très intéressant dans votre BD, même le scénario, je ne voudrais pas trop dévoiler, mais il est articulé autour de ça, c'est ce respect aveugle de la loi ou du règlement, on peut dire du feu rouge. Donc je ne dévoile pas trop l'intrigue, mais c'est central dans votre album, même ça finit là-dessus, et d'ailleurs c'est une excellente fin. Et donc ce légalisme-là, comment vous le vivez ? Cette espèce de manière de dire « je ne réfléchis pas, au fond, c'est la loi, je me soumets aveuglement ».
Alors là, je vois bien la question du philosophe. C'est vrai que moi, j'ai cherché, quand je mettais en scène les Allemands, à mettre en scène un maximum de préjugés qu'on pouvait avoir sur cette population, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, avec tous les clichés. Quitte à justement les démonter, faire un pas de côté pour voir à quel point ils étaient absurdes ou informés, mais c'est quelque chose que beaucoup de peuples ont en commun quand ils regardent ce peuple allemand, c'est effectivement leur respect de l'ordre, de la ponctualité, de l'organisation. Voilà. Donc il y a toutes sortes de blagues autour de ça, de la grande vadrouille à un cow-boy sous pression, on n'y échappe pas. Mais effectivement, pour un cow-boy habitué aux grands espaces, à la nature, au rythme finalement du hasard de ces rencontres de la nature, de devoir se plier à ces règles aveuglément, ça paraît une absurdité. Donc effectivement, on a du mal à dire que les premiers feux rouges ont été inventés à l'époque de Lucky Luke, hein, fin 19e, alors même qu'il n'y avait pas encore de voiture, pour quand même réguler
des
la circulation
que
des
même
gens.
Jolly Jumper va devoir respecter.
Voilà, c'est ça. Et ça paraît évidemment contre nature parmi toutes sortes d'autres choses, mais c'est une attitude intéressante. Et je pense que ça nourrit effectivement énormément les États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même le premier pays où on a installé ce truc qui s'est généralisé. C'est important toujours de regarder les États-Unis parce que, de par leur pouvoir et leur rayonnement, ils donnent le ton à ce qui va se passer ailleurs plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et souvent, l'Europe est un miroir à retardement.
Mais vous n'avez pas l'impression
des États-Unis.
Que...
Les queues dans les aéroports, vous savez, quand on fait. Même s'il n'y a personne pour aller à un guichet, si jamais on coupe la file et on va droit au guichet, on se fait arrêter. Il faut absolument faire le petit serpentin, le zigzag réglementaire.
On voit ça aussi en Suisse, on voit ça au Japon, mais ce qui est très intéressant, c'est que là, on comprend que cette Amérique-là, elle vient de l'Allemagne, au fond.
Cette Amérique-là, elle vient de l'Allemagne, et le curieux cocktail, finalement, des États-Unis, c'est aussi le puritanisme anglo-saxon des pères fondateurs, et finalement, ce puritanisme-là et ce monde de la Bible et du châtiment, c'est aussi l'autre angle, je dirais, pour comprendre les États-Unis en dehors de ce légalisme allemand. C'est finalement... On se rend compte, en voyageant, justement, quand j'ai travaillé sur ce Lucky Luke, j'ai essayé d'aller un peu de l'autre côté du rideau de velours, de la scène de spectacle, de nos aventures de cow-boy. Et derrière ça, il y a deux gouffres fondateurs, deux espèces de plaies béantes dans l'histoire américaine, qui sont d'abord le génocide des Amérindiens, et évidemment, l'esclavage des Noirs, et sans lesquels rien n'aurait été possible aux États-Unis. C'est vraiment l'acte fondateur de naissance de ce continent et de cette puissance. Et en même temps, ça a été entièrement caché, pendant des décennies, par Hollywood, par le discours que la société faisait d'elle-même. Et aujourd'hui, c'est comme une tâche infamante, une faute originelle. Et quand on est très chrétien, quand on vit avec ce puritanisme biblique incorporé, ça c'est quelque chose que tous les États-Unis ont en commun, eh ben, on doit expier. Et finalement, la question que je me pose, c'est est-ce que finalement tous les problèmes de nourriture, d'obésité, d'autodestruction physique quasiment de la population américaine, d'un côté, de l'autre côté, les meurtres de masse, des gens qui arrivent avec des armes automatiques et qui flinguent, qui tirent dans le tas comme ça, est-ce que ce serait pas une certaine façon de, inconsciemment, payer pour la faute qu'ils refusent eux-mêmes d'assumer, qui est ce génocide invraisemblable et l'esclavage qui porte en eux, ils savent qu'ils doivent être punis parce qu'ils sont chrétiens, et en même temps ils veulent pas reconnaître leur faute. Donc c'est comme à la fois un mélange d'inconscient et de punition chrétienne. C'est très bizarre finalement.
Ouais, on comprend bien votre théorie, elle est séduisante, et elle est d'ailleurs un petit peu présente en filigrane dans le regard que vous portez sur cet autre monde américain. Dans votre bande dessinée, donc un cow-boy sous pression, Lucky Luke, on rencontre aussi le grand-père de Trump. Et qu'est-ce que votre voyage comme ça dans cette Amérique profonde, je crois que vous avez traversé 11 États, c'était long, vous a apporté comme éclairage sur l'élection de Trump ?
Ben, en fait, c'est là où tout se passe, là où tout se joue, parce que c'est à la fois l'Amérique rurale, ça on en a un petit peu parlé, l'Amérique des ouvriers, ceux qui ont été oubliés par les démocrates, c'est-à-dire ces ouvriers blancs des grandes usines du Nord. C'est pas un cow-boy sous pression, ça se passe à Milwaukee, The Brew City, la ville des brasseries. C'est là où il y a eu le premier grand meeting de la campagne de Trump. C'est là qu'il a lancé en fait son départ là de ce deuxième galop qu'il a effectué. Donc c'est vraiment je dirais, une fenêtre ouverte sur cette Amérique qu'on fait mine de ne pas comprendre. En fait, je crois qu'on peut très bien la comprendre, même si on ne l'aime pas.
C'était Beyoncé, reprise de Dolly Parton, Jolene.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous avons toujours le plaisir d'être avec Jules, le dessinateur, qui maintenant est le scénariste de Lucky Luke. Nous parlons de votre reportage dans les bottes de Lucky Luke. Vous avez traversé ces 11 États américains. Je voudrais qu'on revienne sur cet élément très, très étonnant, très instructif d'ailleurs de votre travail, qui est cette Amérique allemande. Et on s'aperçoit que même le général Eisenhower, en fait, porte un nom allemand qui a été anglicisé.
Oui, ils ont changé l'orthographe, mais ça s'écrivait différemment à l'allemande. C'est ses grands-parents à lui qui étaient venus. Et ces migrants allemands, ils ont construit vraiment toute une Amérique décisive, en fait. Ils ont fait partie du pouvoir. Et c'est un paradoxe, d'ailleurs, de se dire que, précisément, c'est un Allemand, d'une famille allemande, vraiment marqué par cette culture-là et cet héritage-là, qui a délivré l'Europe du nazisme.
Et bien, justement, on va l'écouter.
Soldiers, sailors and airmen of the Allied Expeditionary Force. You are about to embark upon the great crusade toward which we have striven these many months. The eyes of the world are upon you. The hopes and prayers of liberty-loving people everywhere march with you. In company with our brave allies and brothers in arms on other fronts, you will bring about the destruction of the German war machine, the elimination of Nazi tyranny over the oppressed peoples of Europe, and security for ourselves in a free world.
Nous sommes donc le jour du débarquement, le 6 juin, et le général Eisenhower booste ses troupes en leur expliquant qu'il doit libérer l'Europe, libérer la France de l'Allemagne nazie.
C'est intéressant parce que de toute façon, les Allemands qui avaient en plus fait le gros, c'est pas le cas de la famille d'Eisenhower, mais qui avaient fait le gros de la migration au moment du printemps des peuples, en fait, c'était des gens qui politiquement étaient très avancés. En fait, c'est aussi pour ça que c'est eux qui ont inventé le socialisme et le syndicalisme aux États-Unis, ouais. Et pas seulement, je dirais, le côté réactionnaire à la Trump. Ils sont un peu des deux côtés du manche. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que Karl Marx lui-même, qui apparaît pour la première fois dans Lucky Luke, d'ailleurs, c'était ouais. assez marrant, écrivait chaque semaine dans le New York Tribune. Un éditorial qui était avidement lu par tous les travailleurs américains. Donc, voilà, des deux côtés un petit peu du spectre de la société américaine, on trouve des Allemands.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre bande dessinée Un cow-boy sous pression, on a d'un côté le syndicaliste qui est là, qui se réfère à Marx, et puis le patron de la distillerie, qui a un nom, je crois, Batz, que vous avez un peu trafiqué, mais qui est presque le vrai nom. Et comme ça, se joue quelque chose qui s'installe et qui va durer pendant deux siècles, et cette opposition, comme ça, du capitalisme et du syndicalisme, au fond.
Oui, et puis se dire que Lucky Luke va réussir à réconcilier tout le monde, parce que Lucky Luke, c'est le super-héros. Y a un album très célèbre de Lucky Luke, Les Rivaux de Painful Gulch, où il réussit à mettre fin à une vendetta séculaire entre les Otimins et les O'Hara. De la même façon, il réussit à inventer la cogestion à l'allemande, peut-être, ou en tout cas régler le problème de la lutte des classes. On s'imagine qu'on aurait besoin, probablement en France, dans cet état chaotique dans lequel on nage depuis maintenant quelques mois, et tout simplement en Europe, et évidemment aux États-Unis, avec ces deux Amériques irréconciliables, d'un Lucky Luke qui parvient à faire la synthèse. Au fin de compte, c'est le troisième terme de la dissertation de philosophie classique, c'est Lucky Luke.
Lucky Luke, la dialectique. Jules, si vous revenez comme ça sur ce voyage, qui a duré combien de temps d'ailleurs ?
C'était deux mois et demi de tournage, ouais. En deux temps.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Devant quoi vous êtes resté le plus interdit, au fond ?
On connaît très mal le sort et la vie des Indiens américains, en fait. Et c'est là où, finalement, il y avait une insuffisance de la bande dessinée Lucky Luke. Aussi bien, c'était un passeport incroyablement clairvoyant pour comprendre le monde blanc du centre des États-Unis. Ils avaient eu cet intuition-là, Maurice Egotini, extraordinaire. Ouais. Aussi bien, le côté indien était trop informé par Hollywood. Du coup, tout le monde habitait dans des tipis, avait des plumes, etc. Et là, l'immense diversité des civilisations amérindiennes, dont même les groupes linguistiques diffèrent, les langues siouan ne sont pas les mêmes que les langues du Sud, fait que les expériences très très singulières de chaque tribu, qui continuent à vivre aujourd'hui, alors que la plupart des blancs américains pensent que finalement les Indiens ont disparu corps et bien, et eux ils sont absolument bouleversés d'être invisibles aux yeux de leurs contemporains. On parle de millions de personnes qui vivent sur ce territoire. Y avait des endroits, des réserves, par exemple, dans le sud Dakota, c'est les endroits les plus pauvres des États-Unis. Dans un état de misère et de détresse absolue, avec 97% de chômage, des gens qui vivent tous sous le seuil de pauvreté, il fait 40 degrés l'été, moins 40 l'hiver, c'est invraisemblable ces endroits, et ils ont entièrement disparu du regard. Et pourtant, ils sont là, et ils vivent, il y a une espèce de dignité et de désespoir qui cohabitent, et c'est vraiment bouleversant. Et quand on voit en fait des chefs Sioux Lakota qui sont des gradés de l'armée, qui ont servi en Irak, mais qui ont fait un point d'honneur de jamais servir dans les régiments de cavalerie, parce que c'est cette même armée, évidemment, qui a perpétué le génocide envers leur peuple. Il y a cette espèce de dialectique, précisément, qui est vertigineuse et qui donne probablement pour moi, en tout cas auteur de Lucky Luke, plein de pistes pour traiter les choses un petit peu différemment, avec un peu plus de finesse et un peu plus de profondeur et de beauté dans les futurs Lucky Luke qui ne manqueront pas d'advenir dans les années qui viennent.
Alors, Jules, avec vous, on va poursuivre cette réflexion sur la différence culturelle. Est-ce que vous êtes beaucoup intéressé à la Chine par le passé ? Vous avez été professeur d'histoire chinoise. Vous avez même fait partie, il y a longtemps, d'un voyage officiel en Chine. Et c'est par votre faute que Ségolène Royal s'est ridiculisée avec cette notion de bravitude. Elle avait mal compris un proverbe chinois que vous lui aviez donné. Et c'est intéressant peut-être de comparer la façon dont vous allez vers la Chine et dont vous allez vers l'Amérique en reposant la question au fond de la différence culturelle. Parce qu'on pourrait se dire évidemment, la Chine c'est l'autre, c'est un autre monde pour nous beaucoup plus que l'Amérique. On pourrait dire devant la Chine on est beaucoup plus dessaisi, stupéfait, on ne comprend pas ce qu'on a en face de soi. D'ailleurs un philosophe sinologue François Julien explique que c'est ça, que la Chine nous offre l'occasion d'une vraie rencontre, c'est-à-dire qu'on est devant quelque chose qu'on ne peut pas appréhender, qu'on ne peut pas dialectiser, qu'on ne peut pas ressaisir. Et on aurait l'impression qu'avec l'Amérique, c'est pas ça. Parce que l'Amérique est plus proche de nous, parce qu'on fait partie de l'Occident. Et finalement, le paradoxe, si on met en parallèle les deux histoires, c'est qu'on se retrouve, on a un peu l'impression qu'on est devant l'Amérique, plus encore que devant la Chine, stupéfait.
En fin de compte, c'est la stupeur qui nous prend face aux choses qui sont proches. Est-ce que c'est pas finalement l'expérience de l'altérité la plus absolue que de s'apercevoir que la personne à côté de qui on a dormi pendant 20 ans est une personne étrangère. Il y a toute cette expérience, il y a une nouvelle de Colette, extraordinaire, comme ça, d'une jeune mariée qui se réveille auprès de son époux, comme ça, puis qui commence à détailler les parties de son corps, lui, il continue à dormir, et elle se rend compte qu'il a un genre de monstre qui partage son lit, et que c'est la personne la plus éloignée du monde, et probablement un papou des îles, serait bien moins exotique que son propre mari, avec qui elle s'apprête à finir ses jours. Donc cette chose-là, on la pressent, chacun d'entre nous. Donc quand on va en Chine, quand on va chez les Chinois, on se dit, bah oui, tout est très compliqué, c'est très différent, donc on est déjà dans une attitude d'acceptation de l'altérité. Aux États-Unis, on essaie de trouver la même chose, on cherche une complicité, mais finalement, elle est un petit peu, je dirais, fragile. Et voilà, elle disparaît très vite dès qu'on essaie de l'étreindre.
Je ne connaissais pas cette nouvelle de Colette, ça a l'air intéressant. On pourrait aussi imaginer le contraire, d'ailleurs, c'est qu'il y a quelqu'un qu'on croit bien connaître, et qui est par exemple sa femme, son mari, ou la personne avec qui on vit, et finalement c'est pas qu'un jour elle nous apparaît complètement étrangère, mais c'est qu'un jour on la découvre sous un jour nouveau, comme si on la rencontrait enfin, après avoir juste fait du compagnonnage pendant longtemps.
Oui, et puis, en fin de compte, si on tire vraiment le raisonnement jusqu'au bout, en soi-même, il y a une forme d'altérité, il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, et quand on invente des histoires, encore plus dans le domaine de l'humour, il y a une porosité particulière entre l'inconscient, des choses qu'on ne maîtrise pas vraiment, et la partie consciente maîtrisée de notre cerveau. Et au moment des siestes, au moment de la grande fatigue, tout d'un coup, la porosité se fait plus notable entre les différentes couches du cerveau. Et c'est là que les blagues, le mot d'esprit, l'inconscient jaillit et circule. Cette différence-là, elle est très très marquée en soi-même. À partir du moment où on l'accepte, effectivement, il y a quand même cette question évidente, si on compare la Chine et les États-Unis, de la langue. Et en fait, moi, je suis passionné par cette formation de nos pensées, de notre vision, de notre sensibilité par les mots, par la langue, et en plus la Chine, par l'écriture. Moi, quand j'ai commencé à apprendre le chinois, j'avais 15 ans, et j'avais le choix entre faire italien, hébreu ou chinois. Alors, je suis allé le plus loin de ma base en choisissant chinois, et on nous l'avait vendu en disant, vous savez, le chinois, c'est la seule langue qui fait marcher les deux parties du cerveau. Toutes les autres langues, c'est une seule partie.
Non, c'est en fait, vrai, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas de deux parties, que c'est un des mythes sur le cerveau.
En tout cas, c'était comme ça que c'était vendu. Donc, il y avait ce côté irréductible différence. Mais c'est vrai que le système d'écriture chinois est en gros un terrain de jeu extraordinaire, parce que ça mélange à la fois l'image, le sens. Il y a des correspondances poétiques magnifiques qu'on peut trouver. Donc oui, il y a quand même quelque chose de très séduisant dans la Chine et le chinois.
Alors, quand vous avez appris le chinois, quand vous êtes allé vers ce monde-là, vous avez découvert quoi, finalement, pour nous qui ne connaissons pas cette langue, cette façon de penser? Je pose cette question en ayant en tête, en arrière-plan, ce que dit François Julien, qui dit que voilà, il n'y a pas de différence culturelle, il n'y a que des écarts. Sous-entendu, la différence, ça sépare, et l'écart, ça met en tension, et quelque part, ça rend possible un dialogue.
Oui, bah c'est une pensée un petit peu angélique sur tout ça, probablement. Moi, je suis peut-être plus de l'école d'un Damasio, qui ne travaille pas en particulier sur la Chine. Il y a des grandes philosophies qui structurent des groupes de population, celle de la Chine qui raconte qu'il y a un continuum entre le microcosme et le macrocosme.
Ouais. Un processus.
Entre les différentes classes de vivants, en fait, que nous, on a un petit peu répertoriées de manière très, je dirais, rigide. Ça fait la vraie grande différence, probablement, de la pensée et aussi l'appréhension du temps entre un temps cyclique ou un temps au contraire, enfin un temps horizontal et un temps cyclique. Donc, toutes ces choses-là, elles sont très importantes pour comprendre la différence avec la Chine. Et puis, il y a toutes ces différences avec les mots. On a tous, quand on étudie cet exemple des Inuits qui ont 60 mots pour désigner la neige ou des populations subsahariennes qui ont plein de mots pour dire, pour nommer le sable, par exemple, évidemment. Mais moi, ce que j'adore, c'est ces mots chinois intraduisibles. Par exemple, il y a une couleur qui s'appelle Qing. Qing, en chinois, on peut considérer que c'est le gris bleuté lointain des montagnes. Alors, ce qu'est Qing peut être vert, gris, marron, bleu. Et nous, on le nommera complètement différemment, mais les Chinois, ils voient quelque chose, une vibration particulière, une profondeur particulière, qui est intraduisible. Donc, il y a les mots, justement, qu'on n'arrive pas à traduire d'une langue à l'autre. Il y en a entre les langues européennes, mais évidemment, avec le Chinois, il y en a plein, plein, plein.
Et comment vous avez découvert la Chine? C'est quoi la première rencontre avec la Chine dans votre histoire?
Moi, j'étais complètement indifférent à la Chine, parce que je suis nourri de plein d'origines familiales. L'endroit où j'habitais, c'était une grande tour en banlieue parisienne à Champigny-sur-Marne, où on parlait un peu toutes les langues aux différents étages, mais il n'y avait pas de Chinois. Il y avait des Vietnamiens, il y avait des Kabyles, il y avait des Serbes, etc., mais pas de Chinois. Donc, je ne connaissais rien, et c'est par hasard que j'ai pris Chinois, parce que je voulais faire arabe, troisième langue, j'ai été viré du lycée où je devais faire arabe, donc tout ça a été un peu acrobatique, et mon prof était d'origine oranaise, le professeur Bellassène, et il parlait chinois comme un pékinois. Et quand je me suis dit que ça, c'était possible, évidemment, ça a été le coup de foudre. Et j'ai voyagé en Chine très tôt, à l'âge de 15 ans, juste après Tiananmen. Je suis allé l'hiver, il faisait un hiver très très froid à Pékin. Et bon, c'est justement en étreignant ces odeurs, cette chair de la Chine, alliée justement à l'enthousiasme, la plasticité neuronale de l'adolescence. Ouais. Bon, bah voilà, ça a été le cocktail paradisiaque qui, jusqu'ici, m'accompagne et me nourrit encore et encore.
Alors finalement, on peut maintenant profiter de votre présence pour reposer la question de l'émission. Quand vous êtes en contact avec une autre culture, après on verra la question difficile de la hiérarchie des cultures, est-ce qu'on peut les hiérarchiser? Mais avant ça, finalement, quand vous voyagez par la pensée, par l'apprentissage du chinois, par votre travail, par ce reportage sur les traces de Lucky Luke, finalement, ce qui vous plaît, ce qui vous anime, est-ce que c'est de comprendre? Ou est-ce que c'est de mesurer que finalement, on ne comprendra pas?
C'est les deux à la fois. C'est-à-dire, c'est un mouvement de navette, finalement, entre l'inconnu, ce petit frémissement, cette petite excitation du nouveau, et puis, quand même, ces points d'appui, ces points de capiton, ces espèces d'ancrage par lesquels on peut un petit peu escalader, je dirais, cette paroi de l'altérité, et où on trouve des choses qui nous ressemblent. Et donc, je pense qu'avant tout, c'est le plaisir. On trouve cette question de l'humour, justement. Ou avant tout, quand on fait des blagues, c'est pour être avec quelqu'un. C'est une forme de sociabilité assez avancée.
Ça permet même d'entrer en contact au début.
D'entrer en contact, le plaisir d'être ensemble, de rire ensemble, c'est une chaleur, c'est une circulation singulière qui ressemble à aucune autre, en fait. C'est un plaisir presque amoureux qu'on éprouve avec des inconnus. Et cette chose-là, quand on arrive à l'établir d'une culture à l'autre, eh ben, c'est un petit miracle, parce qu'on a l'impression que l'humour, c'est tellement lié à la langue, bien souvent, que c'est difficilement exportable. C'est-à-dire que ça passe difficilement la barrière de la traduction. Et moi, je le vois bien que les Lucky Luke soient traduits dans toutes les langues imaginables, Silex and the City ou tous mes autres albums, je dirais pour lesquels la langue joue un rôle fondamental, bah, c'est un petit peu plus difficile. Mais il y a quand même des pas de côté qui font qu'on peut faire rire en Chine, et finalement avoir une salle entière de Taïwanais qui s'esclaffent quand on a fait une blague, je dirais que ça peut être un summum d'une carrière.
On a impatient, Jules, de comprendre comment vous avez pu réussir à faire rire autant de Taïwanais avec un humour si français, mais pour l'instant, on va écouter Malik Judy.
Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredis? On pourrait partir ensemble à Belle-Île. Tous les jours ne sont pas vendredi, ti. On pourrait ensemble avoir la belle vie. Allons faire un tour, les cheveux au vent. On roulera nuit et jour vers un beau bois dormant. Sans répondre aux appels, on fera du radeau. Voyageant vers Bruxelles, écoutant la radio.
Ensemble avoir la belle vie.
C'était Malik Djoudi, Vendredi.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin, sur France Inter.
Nous sommes toujours avec le dessinateur Jules et nous parlons de la différence culturelle. Grâce à vous, Jules, qui vous êtes beaucoup intéressé à la Chine et puis plus récemment aux États-Unis, grâce à votre dernier album, Lucky Luke, un cowboy sous pression, grâce aussi à votre travail sur la préhistoire, Silex and the City, grâce aussi à ce documentaire, ce reportage qu'on peut voir encore sur Arte, dans les bottes de Lucky Luke. Alors, on revient à cette question qui est la question de philo de l'émission. Comment on fait pour comprendre la culture de l'autre? Peut-être que l'humour est un des moyens. Mais avant cela, je voudrais savoir si vous êtes plus dans la team Max Weber ou la team Émile Durkheim. Je m'explique. Pour Émile Durkheim, il est possible de se débarrasser de ses préjugés. Dans les termes de Durkheim, il dit on peut rompre avec ses prénotions et arriver avec une sorte de neutralité axiologique pour étudier des pratiques, des valeurs, des rites, avec une position de virginité. Max Weber dit c'est pas possible, on ne peut pas. On peut essayer de ne pas avoir trop de jugement de valeur, mais on aura toujours un rapport aux valeurs. On ne pourra jamais être dans cette objectivité-là. Et c'est pourquoi il dit on peut juste comprendre, mais à partir de ce qu'on est. Vous êtes dans quelle team, Jules ?
Moi, je suis un peu comme Lucky Luke, je ferais peut-être la synthèse entre les deux.
Ouais.
C'est-à-dire que, en fait, l'attitude à la Durkheim de se départir finalement de ses préjugés et de ses structures, c'est, je dirais, l'attitude de l'anthropologue, en fait, qui se met un petit peu en position de retrait. Mais on sait très bien dans l'anthropologie moderne, très vite, qu'on s'est rendu compte qu'on était quand même soi-même et que l'observation participante faisait, faire l'irruption d'un objet extérieur dans une culture et donc ça restait quand même un Français, un Belge ou un Allemand qui débarquait au Congo-Brazzaville. Voilà. Donc,
c'est aussi votre cas, vous restez un Français dans le Milwaukee.
Voilà, mais un Français, qu'est-ce que c'est que cette notion de Français, en fait, qui est aussi fait de mille petites nuances et facettes? Je pense que la langue, c'est la clé, avant tout, hein, c'est de là d'où on parle, c'est de la façon dont on voit les choses, dont on rêve, etc. Mais en même temps, dans une langue, c'est pas une seule langue. En France, il y a plein de sous-catégories. Les sociolectes, moi, ça me fascine, parce que quand on met en scène plein de personnages qui sont des prolétaires, des grands aristocrates, des paysans, bah, ils ne parlent pas de la même façon, avec le même vocabulaire. On ne parle pas de la même façon quand on a 15 ans ou quand on a 80 ans aujourd'hui. Donc tous ces langages-là, c'est des parties de nos identités et on évolue tout au long de notre vie. Donc on est à chaque fois une personne singulière, porteuse de plein de névroses et de représentations héritées par notre langue et la langue de nos parents, de notre milieu, de notre famille, de notre quartier, etc. Donc ceci étant posé, l'attitude d'ouverture, elle peut être adoptée. On voit bien les gens qui décident de rien bouger en eux, et ceux qui décident de suspendre un petit peu le
jugement
et de regarder. Les sens sont aussi un mode d'appréhension de l'altérité.
D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est presque une définition de ce que c'est que bien vieillir. au fond, bien vieillir, c'est réussir à accueillir la nouveauté, le présent, une nouvelle culture, un voyage, et de se dire, tiens, je ne voyais pas les choses comme ça, et de remettre un peu en question des jugements, des visions, peut-être pas complètement, mais peut-être juste d'accueillir la surprise du présent et de dire, ah, c'est marrant, au fond, je ne voyais pas ça comme ça. D'ailleurs, c'est un peu ce que vous faites dans le reportage aux États-Unis. Alors que le vieux con, quand on vieillit mal, hein, on peut aussi le conjuguer au féminin, c'est qu'on reste accroché à la même vision, et quelle que soit la nouveauté, quelle que soit la rencontre, une culture, un voyage, un livre, quelqu'un dans un dîner, en fait, on dit « ouais, je le savais », on ressasse et on radote, et on reste fixé comme ça, sur la même vision, au fond.
Oui, il faut savoir voyager dans l'espace et dans le temps.
Oui, et puis on aime, dans ce cas-là, si on est ce que j'ai appelé un vieux con, mais il ne faut pas mal le prendre, tout va être comme un billet de confirmation, on va tout prendre comme confirmant ce qu'on pensait déjà.
Et c'est pour ça que finalement, je dirais, l'humour bouge un peu les lignes.
Ouais.
Parce qu'il n'y a rien de plus terroir que l'humour. On se rend compte que c'est tellement référentiel, c'est tellement adossé à des présupposés, à une espèce de connivence qu'il peut y avoir avec l'interlocuteur, que dès qu'on sort un petit peu de notre zone, on se dit c'est pas exportable, on peut pas partager ça. Mmh. Et en fait, y a un contre-exemple qui est les comédies américaines de Hollywood, parce que depuis le plan Marshall et les années 50, l'hégémonisme culturel américain a fait qu'on rit tous des mêmes choses, des mêmes dessins animés, des mêmes comédies, sont des blockbusters de tous les côtés de la planète, donc ça infirme cette idée que l'humour n'est pas exportable. Il y a cette dimension-là, un petit peu, je dirais parfois tiède, même si ça peut être extraordinairement sophistiqué. Et puis, il y a ce qui voyage difficilement. Un des trucs singuliers, c'est les blagues Monsieur et Madame. Vous savez, ouais. Monsieur et Madame Machin ont un fils. Quand on est petit, on apprend d'abord le Monsieur et Madame de base, qui est Monsieur et Madame Terrieur ont deux fils, à l'intérieur, à l'extérieur. Bon, moi, je me souviens, en tout cas, étant enfant, qu'on m'avait expliqué le principe. Ensuite, c'est très familier aux auditeurs français. En revanche, vous prenez même des Belges ou des Suisses qui sont francophones, déjà, ils comprennent le principe, mais ils ne voient pas en quoi c'est drôle. Et des bons francophones venant d'autres cultures aussi arrivent à comprendre la logique, mais ne comprennent pas l'humour qu'il y a dans ça. Ouais. Donc, c'est très bizarre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que nous qui trouvons ça drôle?
Et alors, pourquoi?
En fait, il y a un dessinateur qui s'appelle Libon, avec qui j'ai fait un Spirou en fait il y a quelques années, qui a essayé d'interroger une intelligence artificielle, ChatGPT, pour qu'elle fasse des blagues de Monsieur et Madame. Et on se rend compte que l'intelligence artificielle risque, dans le champ de la création, de remplacer énormément de gens, notamment les gens qui écrivent des fictions, des histoires d'amour, ouais. Des histoires d'aventure. Ben finalement, ça arrive à être généré par une intelligence artificielle. Mais des blagues, c'est encore la frontière un petit peu la plus lointaine. Et les blagues de Monsieur et Madame, alors là, c'est hilarant involontairement parce que ChatGPT est incapable, même après beaucoup d'heures d'entraînement, de faire, d'émettre ou même de comprendre une blague de Monsieur et Madame. Et je dirais, à partir du moment où tout aura disparu, où tout aura été remplacé par une intelligence artificielle, le dernier bastion d'humanité est peut-être le dernier irréductible recoin de pensée française. Eh bien, c'est les blagues de Monsieur et Madame.
Enfin, ça, c'est par rapport à ChatGPT-4. Mais peut-être que ChatGPT-44 arrivera à faire des meilleures blagues encore.
Voilà, mais elle aura conquis tout auparavant. Ça sera le dernier coin.
Mais alors, sur cette question de la traduction de l'humour, de l'exportation de l'humour, on a quand même des choses qui s'exportent très bien. On voit que, par exemple, il y a un humour de certains Français stand-uppers qui vient des États-Unis, qui est presque décalqué des États-Unis. Il y a aussi votre travail à Taïwan. Là, racontez-nous un petit peu, vous avez fait partie d'un prix de la bande dessinée à Taïwan. Et visiblement, les Taïwanais ont été assez sensibles à votre humour et même à votre dessin.
Oui, j'ai toujours été étonné de voir que mes bandes dessinées d'humour étaient traduites dans des langues très différentes, avec des principes logiques très différents, le chinois, le coréen, le japonais. C'était étonnant, lors d'un voyage, de me retrouver à dîner avec Xi Jinping et lui offrir Zhang Zhe Xingqiu en chinois, La planète des sages, une bande dessinée que vous connaissez bien, Charles Pépin, sur l'histoire de la philosophie. Et lui, il avait fait semblant de trouver ça drôle, mais évidemment, il n'avait pas forcément compris toute la saveur de ces blagues. Mais là, en l'occurrence, quand Silex and the City, le film qui a été tiré au cinéma de la série de bande dessinée, a été invité dans un festival à Taïwan. J'ai découvert le génie de la traductrice, en fait, qui avait fait une adaptation. Et en fait, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Raon de la Pétaudière, qui est une espèce d'Aristo Sapiens, comme ça, préhistorique, qui va faire ses cours sur l'esplanade de la Défense, et on voit une grande défense de mammouth. Alors nous, ça nous fait marrer, évidemment, la Défense. Et quand arrive ce moment du film, la salle entière de Taïwanais s'esclave de cette blague. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils comprennent à ce truc? Et ensuite, j'ai interrogé un petit peu la traductrice qui avait adapté, avec un jeu de mots, une blague sur un grand supermarché très célèbre à Taipei, et ça fonctionnait. Et donc, l'intention était là.
Donc, c'est même pas traduire, c'est trahir, c'est juste inventer complètement autre chose.
En fait, c'est traduire l'intention. En fait, avoir le même mouvement du cœur. Et finalement, est-ce que c'est pas ça aussi dans les histoires d'amour, quand on comprend pas quelqu'un, en fait, et il y a cette phrase, tarte à la crème, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais on regarde peut-être dans la même direction, mais pas le même truc. Mais en attendant, cette espèce de mouvement commun, on parle de mouvement vraiment d'une forme de dynamisme du cœur, des affects, et ben en fait, on peut le partager avec une salle, et on peut le partager probablement avec tout le monde.
C'est intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que disait tout à l'heure François-Julien, en fait, quand il disait il n'y a pas une différence culturelle, il y a un écart, et l'écart fait que avec l'autre, on est mis en tension et on n'est pas vraiment séparé. Finalement, c'est un peu ce que fait l'humour, finalement, de créer cet écart permanent qui fait qu'on est appelé et puis on est un peu rejeté en même temps.
Voilà, et puis c'est un pas de côté, donc un pas de côté face à quelqu'un qui fait à son tour un pas de côté, ça fait très vite une danse.
Alors comment vous expliquez que parfois cet humour tombe complètement à l'eau ? C'est pas toujours qu'on n'est pas drôle, parfois ça ne marche pas. Vous qui avez fait du dessin de presse, qui travaillez beaucoup sur l'humour, comment vous interprétez ce bide parfois ? Est-ce qu'il n'y a pas des bides aussi inexplicables au fond que des autres cultures ? C'est une question de quoi ? De timing ? C'est une question de rapidité ? C'est une question d'attention ? C'est quoi ? C'est quoi le secret, au fond ?
C'est le même mystère que l'amour. Encore une fois, j'avais jamais vraiment théorisé cette proximité entre humour et amour. Mais c'est, pour être un peu à la Yankelevitch, un je ne sais quoi ou un presque rien, pour reprendre ces concepts séduisants, qui fait que ça marche ou pas. Donc, c'est... Il y a plein de mots, en fait, qu'on aurait du mal à traduire, qui changent d'une génération à une autre. Il y avait le knack, ou comment l'avoir, le mojo. Aujourd'hui, j'ai pas le mojo, ça marche pas. En fait, il y a un moment où les Chinois diraient peut-être le qi, tout simplement, le souffle vital, qui circule ou qui ne circule pas. Donc, il y a des corps, il y a des mots, et parce cette espèce de chaîne, cette espèce de tresse de corps et de mots, parfois, effectivement, n'est pas reliée. Et on ne saurait pas complètement le maîtriser. Et quand ça, ChatGPT ne peut pas le faire.
Quand on voit des gens dans un dîner ou dans des plateaux de télé qui font des bons mots comme ça, qui sont des snipers, comme on dit, on voit bien que si c'était quelqu'un d'autre qui, avec un dixième de seconde à côté, un ton un tout petit peu à côté, fait exactement la même blague, ça ne prend pas du tout.
Voilà, et c'est comme les gens qui disent « mon petit-neveu, il serait capable de faire cette toile de Picasso ». Certes, ça ressemblerait peut-être un peu, mais quelle est la différence qu'elle aura particulière se dégagerait de ça? C'est pas seulement dans l'intention du créateur, dans la vibration du récepteur, c'est entre les deux. C'est un espace mystérieux, c'est l'espace de l'amour, c'est l'espace du spirituel, peut-être c'est l'espace de Dieu.
Ou de l'esprit, cet esprit tel que vous nous en avez parlé, que l'IA ne pourra peut-être jamais remplacer.
Voilà, je pense qu'on pourrait...
Le trait d'esprit, quoi.
Voilà, le trait d'esprit qui est ce truc... Bon, il y a l'esprit français très intéressant, hein, qui est cette espèce de mélange de l'esprit du XVIIIe siècle, l'esprit du salon, justement, le langage très rapide, la punchline, en fait, avant l'heure. Et puis, cette espèce de goût un peu ensoleillé, méditerranéen, de ce que nous a apporté, finalement, tout le monde d'Afrique du Nord, qui fait que l'humour en France, c'est ce cocktail-là, en fait, puisqu'après la décolonisation, la venue de plus d'un million de personnes, de rapatriés, de juifs, de musulmans venant de ces zones-là, apportant une forme de sociabilité et d'humour encore bien singulière, qu'a fait ce qui est le rire aujourd'hui en France. Ça, c'est assez intéressant, c'est une couleur qu'on ne trouve pas ailleurs.
Exactement. Merci beaucoup, Jules, c'était passionnant de vous écouter. Pour vous remercier d'être venu ce matin sous le soleil de Platon, je vais essayer de résumer pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui est la vôtre et qu'on a entendue. Alors j'ai pris quelques notes et j'ai noté surtout étrangement époké. Vous savez, c'est le terme des Grecs anciens, des sceptiques, pour dire la suspension du jugement. C'est pas mal, on n'est ni dans Durkheim qui est la rupture avec ses jugements initiaux, ni dans Weber qui dit au fond je ne peux pas me défaire de là d'où je viens. Entre les deux, il y a peut-être le scepticisme drôle, humoristique, de celui qui suspend son jugement, ne va pas s'abaisser à tomber d'un côté ou de l'autre, à juger ici ou à juger cela, et à ouvrir les yeux avec curiosité sur l'autre, sur la Chine, sur le cow-boy solitaire, sur l'Amérique, sur le Dakota, sur la préhistoire aussi. Et c'est votre œil qu'on a bien aimé entendre ce matin et retrouver. Je dirais donc une philosophie qui croise la curiosité du sinologue et le scepticisme du grec ancien. Merci beaucoup, Jules. Cette émission a été préparée par Audrey Carme et Laura Dumez, à la programmation musicale Valentine Chaudebois, et l'émission a été réalisée par Antoine Larcher, avec à la technique Loïc Frapsos. Et je ne vous dis pas à lundi, parce que c'est terminé pour cette période de fête. On a fait 2 semaines comme ça, sous le soleil d'hiver, le soleil un peu glacial de Platon. On se retrouve l'été prochain, en juillet, pour le véritable soleil de Platon. À bientôt.